Bonjour et bienvenue, nous sommes le samedi 1er septembre 2007 et il est exactement midi.
Éphémère est une radio libre, sans pub et indépendante, fondée à Toulouse en 1981. Notre mission, vous faire partager nos passions, nos coups de cœur et ce qui va vraiment faire bouger votre monde.
FMR s'invite dans vos oreilles aujourd'hui avec, pour commencer...
Maintenant,
le supplément week-end avec l'actu BD, ciné, DVD.
Et ensuite
Non, c'est suivi de Big Bang à 17h. Et ensuite, 18h, vie d'ordure. 19h, Happy Hour. 20h, la CTO Experience. 21h39, Love. Vous écoutez FMR sur 89,1 MHz. Nous sommes en direct de midi à 5h du matin. Et on continue sur www.radio-fmr.net. Thomas, bonjour.
Bonjour Xavier.
C'était censé être la rentrée là.
Oui, mais on n'est pas au complet là.
On n'est pas au complet, donc on remet ça samedi prochain. La semaine dernière, on n'était pas là pour cause de détournement. On va dire que la direction a oublié de nous prévenir qu'il y avait un événementiel samedi dernier. C'est un peu dommage. Mais bon, je pense qu'on va y aller sec et sérieux. Bref, aujourd'hui, c'est la dernière avant le retour. C'est la grande répétition.
Ces événements se déroulent entre midi et 13h.
Moi, je me suis dit comme ça pète un peu plus et tout ça.
Il faudrait que tu la trouves en VO.
Je sais, mais je les ai chopés sur la diffusion en live, quoi. Ah. Ronnie Size and Represent, Heroes. Je crois que j'ai déjà utilisé, mais bon, c'est comme ça pour le fun. They can tell the story.
Like a hero. Oh, save me. Oh, save me.
Ladies and gentlemen, introducing to you the sounds of Now.
Excusez-nous, on fait un peu languir comme ça, mais je vous rassure, ce n'est pas parce qu'on a quasi rien dans cette émission, c'est-à-dire 3 BD, une chronique des DVD. C'est aussi parce que le réalisateur était en train de se planter dans ses CD, donc je vous rassure.
Ah, pour changer.
Ouais, toi, t'as fait la réalisation qu'une seule fois. Hein.
Ben oui.
Il va falloir s'y mettre, hein, mon cher ami. Je vous rassure, le supplément week-end va continuer. Nous sommes en train de lobbyifier cette radio qui, je le rappelle, est une radio de gauchistes et qui ne veut plus d'entendre parler d'une seule opposition de droite et qui donc souhaite supprimer cette émission qui est parce que c'est une émission culturelle où on parle de bouquins que l'on lit.
Qui veut supprimer cette émission ?
Je sais pas, personne, mais c'est juste pour faire... Allez-y, envoyez-nous tout plein de courriers pour dire « Fraisière, salaud, le peuple aura ta peau !» Non, c'est inutile. Enfin bref, tout ça pour vous dire quand même qu'on a passé une troisième saison qui était plutôt correcte et sympa. Et même très sympa, hein, quand même. On a eu des très bons invités, quand même.
On a reçu des gens, c'était sympa, ils étaient gentils, c'était intéressant, tout ça. On a fait pas mal de com autour de l'émission, c'était intéressant pour tout le monde, en tout cas.
En tout cas, nous, on va continuer là-dedans, puisque on vient de refaire le site internet de l'émission. On va faire plein de flyers, donc on va inonder la ville de papier non recyclé. Et puis aussi, cette année, on aura des gens en direct régulièrement.
Ce qui veut pas dire que c'était pas le cas l'année dernière déjà.
C'était pas le cas, non, mais je veux dire, ça risque de s'amplifier un petit peu. Apparemment, on va avoir des jolies petites exclus, des petites infos un peu en avant-première, sans compter qu'on va renforcer notre partenariat avec Actua BD, ce qui risquerait de se voir lors du festival d'Angoulême. Pardon, excusez-moi, de s'entendre lors du festival d'Angoulême, puisqu'on prépare une spéciale avec l'ensemble de l'équipe d'Actua BD. Hein,
ils sont au courant ?
Oui.
Ah, d'accord.
Non, le directeur adjoint est au courant. mais apparemment, on espère pouvoir faire quand même quelque chose qui soit intéressant régulièrement dans cette émission, avec toujours plus de sérieux, toujours plus d'émissions préparées, toujours plus de contenu, toujours moins de blabla uniquement pour remplir et toujours moins d'improvisation, quoi. De ce côté-là, j'espère que on va arriver à quelque chose de propre.
Je suis sceptique sur ce que tu viens de dire, mais bon.
Enfin bon, ça reste à voir. Ceci dit, Dusport revient la semaine prochaine. Là, il est en train de s'entraîner à bloc avec le pack du 15 de France.
Oui.
Enfin non, le pack de 33 export. Non, il peut pas.
Pack bref. De bière déjà.
Ouais, voilà. Donc il sera à fond pour le mondial de rugby. Quelque chose que on espère aussi fêter un petit peu dans le supplément week-end. Bon, ça reste à voir là aussi de ce côté-là et accessoirement je pense qu'aussi on va avoir une rentrée qui va être costaud. Je rappelle que cette année il y aura que 780 romans qui vont sortir dans le trimestre qui arrive, mais il y aura quelque chose comme 1200 BD qui vont sortir. Alors quand on fait le tri des romans que l'on parle à la télévision et des BD qui ont pratiquement pas leur place ni même en radio à part chez nous, je crois qu'en clair, on va avoir du pain sur la planche.
Ah ouais, il va y avoir beaucoup de BD à chroniquer. Ensuite, concernant les DVD, nous, on n'est pas équipés encore HD, DVD ou Blu-ray. Donc, on va pas forcément vous parler de ces objets-là qui vont sortir, mais on continuera à vous parler du contenu qui est toujours
beaucoup
le plus
intéressant à parler, quoi.
Voilà.
Voilà.
Et on réfléchit aussi à élargir un peu cette émission en recevant des gens qui n'appartiennent ni à la BD, ni au monde du cinéma, ni à la télé.
On
plus,
risque de faire une
de l'ordre des arts graphiques.
Voilà, exactement.
Autour du web design, autour des jeux de plateau, des jeux vidéo. Ça fait quelques temps que ça nous trotte dans la tête.
Sans compter printemps de septembre dont on va continuer à couvrir.
Oh non.
À notre corps défendant. Puisque FMR a été le off cette année, je sais pas s'il y a quelque chose de prévu de ce côté là mais en tout cas théoriquement cette année on a encore nos entrées à l'intérieur, donc voilà.
Ah, on a nos entrées, ouais. Mais
l'entrée étant gratuite.
Oui.
Donc voilà, donc tout ça pour dire que ça va. Le supplément week-end de Radio FMR revient en force.
Voilà.
En tout cas, nous, on a refait complètement le site. Vous pouvez retrouver beaucoup plus facilement toutes les spéciales. Vous pouvez faire les recherches sur l'ensemble du blog du mien pour l'instant et bientôt celui de Thomas. Et plein
c'est
d'autres éléments.
C'est bleu.
Oui, mais un peu plus clair que le précédent bleu. Voilà. Et d'ailleurs, je me suis fait ramasser puisque je me suis inscrit à un concours de design graphique de webdev. Et je me suis trompé. C'était pas de webdev, c'était de webdesign.
Ah zut.
Et quand même il y en a qui tuaient leur race quand même, hein, quand même dans les sites. Mais ce qui me fait plaisir c'est que je ne suis pas dernier.
Ah oui, tout à fait. Ben,
je suis qu'à 3,8 sur 10. Ce qui est quand même une moyenne plutôt honorable parce que la moyenne cette année était à 4,5. Donc voilà. Bref, tout ça pour vous dire que le supplément week-end est là. Et qu'on avait strictement rien à dire et qu'il fallait qu'on arrive au moins à écart pour finir les BD à la demi. Logique ?
Oui, du sport n'est pas là.
Voilà.
Ah non, il va encore revenir la semaine prochaine en disant « Bon alors, je vous ai écouté la semaine dernière, j'ai noté 5 fois que vous avez utilisé l'expression « du sport n'est pas là ». Ça suffit les gars.
Non, ça va, tu peux arrêter de remplir, là je suis en train de préparer le CSU.
Ah, d'accord.
On va commencer sortie de bande dessinée avec une belle estampe mangaïfiée et qui nous vient de Chine. Il s'agit du pavillon de l'aile ouest. D'après Wang Shifu, c'est celui qui l'a adapté en long roman puis en pièce de théâtre, ce qui est un conte quand même du 7e siècle. Sur un scénario de Sun Yao et un dessin de Guo Guo, le pavillon de l'aile ouest, c'est chez Xiaopan. Et ça se passe dans l'immense empire du milieu, quelque part à la fin du premier millénaire chrétien. Chen Yuqin, fils de bonne famille et désœuvré, fait un long voyage sans but, allant de ville en ville au gré de son humeur. Plutôt que choisir la voie impériale des concours de hauts fonctionnaires, il préfère une vie de bohème, de flânerie et de totale oisiveté. Pour son étape à Puzhou, le bel homme est hébergé au temple du Bouddha Sauveur. Au hasard de sa promenade dans les jardins du temple, il tombe sous le charme d'une charmante fille d'une famille noble, légende de beauté auprès de tous les jeunes de la région qui espèrent un jour pouvoir la voir d'un petit peu plus près. Et évidemment, c'est le drame. La très jeune et très belle fille, Pian Pian, et le beau Chen Chiu-Qin, je vais y arriver, tombent amoureux l'un de l'autre, mais n'osent se le dire. C'est la servante de la jeune femme, Hong Yang, qui va faire le courrier entre les deux, entretenant de façon parfois involontaire cette flamme qui semble consumer Chen. Mais ce dernier se dit que la jolie Pian Pian, en plus d'être tombée sous son charme, semble aussi avoir un avenir tout tracé. Cette BD est l'adaptation d'un classique chinois de l'histoire d'amour, proche du roman courtois français, d'ailleurs contemporain du roman courtois, la plus célèbre histoire d'amour de la littérature chinoise qui est régulièrement interprétée par l'opéra de Pékin. La mise en couleur et le caractère design inspiré des mangas classent cette manhua dans le style graphique hongkongais et le traitement couleur très agréable donne une ambiance chaleureuse, une texture soyeuse au récit. Par moments, les décors sont beaux comme des estampes, nous plongeant dans un rêve sucré, celui d'une liaison platonique, romantique, voire chevaleresque. Wong Sifu, c'est donc l'adaptateur du conte originel au théâtre, et Suan Niao et Guo Guo l'ont adapté en manhwa, Le Pavillon de l'Aile Ouest, une histoire complète chez Chiaopan, édité en couleur avec un très beau cahier graphique à la fin.
Ah non, mais moi j'ai rien à dire, hein. Moi je flashais déjà sur ce bouquin quand je l'avais vu chez toi, donc il y a pas de souci, hein. C'est vraiment la grosse claque graphique, comme seuls les Chinois peuvent nous montrer ça dans chez Chiaopan.
Toi moi franchement j'avais un doute, mais toi est-ce que tu l'offrirais à un ado? À une fille, ado, je pense. Hein,
moi, je l'ai pas lu. Alors, moi, le scénario, je le connais pas, mais vu comme tu me l'as décrit, l'offrir à un ado.
Putain, ça manque de baston, quoi.
Ça manque de baston, et puis c'est en plus, ouais, moi je t'aime, et puis est-ce que tu m'aimes? Ouais, mais est-ce que t'as bien reçu mon message? Oui, mais je... Non, en fait, je veux pas t'avouer mes sentiments. Oh là là, mais en fait, il m'aimait! Voilà.
C'est un peu lourd, ouais.
Non, mais je l'ai pas lu, si ça se trouve, c'est vachement bien.
Mais c'est très 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 bien, c'est vraiment une merveille.
Ah, est-ce que tu l'offrirais à un ado? C'est pour la transition après les BD, pour les BD d'après en fait.
Ah oui, tiens, pourquoi pas. Enfin, plus exactement, on reste exactement dans la même ambiance, contrairement à ce que tu allais faire siffler, mon cher ami, puisqu'il s'agit d'Aria, le deuxième tome donc de cette BD SF vient de sortir chez Kami et dessiné, présenté par Kozue Amano. Ce qui veut dire qu'en général, il dessine pas forcément, hein, mais il a toute une équipe de co-scénaristes et de co-dessinateurs derrière. Donc c'est le deuxième tome des aventures de la belle Ondine Aria, à la fois guide touristique et gondolière dans une Venise déplacée de la Terre à Mars. Pardon, de Manhome, à Aqua. Et cette toute jeune femme lancée dans la vie active va, avec deux collègues et une meilleure copine, découvrir les mœurs et merveilles de cette étrange planète. Alors le tempo de cette série est très lent. Et les péripéties, et je mets péripéties entre guillemets, ce qui est une raison, c'est parce qu'ils suivent ce mouvement retenu. C'est-à-dire que oui, des fois, il y a la découverte. Le seul mouvement d'action qu'il y avait dans le premier tome, c'était une course de gondole. Et encore, elle était complètement syncopée. Et là aussi, il n'y a pas grand-chose. La première histoire est une découverte d'une mouche des neiges. C'est une étrange bestiole volante à fourrure annonçant l'hiver. Le deuxième chapitre compte la journée sabbatique des trois filles dans une source thermale. Un bain chaud au cœur d'une maison de maître délabrée du 18e. Et même si les personnages principaux ne sont que des jeunes filles, celles-ci sont... plutôt élégamment couverte d'un uniforme saillant, soit, mais pas sexy. Alors quand même, faut pas croire que c'est des filles, que vous allez trouver des filles habillées légèrement. Ajoutez à l'absence de réelle action, à l'histoire, le charme désuet de Venise, la mélancolie des bâtiments en ruine, le clapotis de l'eau, et la poésie de cette science-fiction, et vous aurez une lecture idéale pour vous détendre avant d'entamer une rentrée d'enfer. Il ne s'y passe absolument rien, mais on lit avec un certain plaisir. C'est lent, c'est langoureux. C'est une BD qui calme l'esprit. Aria, le tome 2 donc de Kozue Amano, vient de sortir chez Kami. À noter que c'est une série fille quand même de la série Manhome. Radio FMR, 12h21 et 21 secondes sur l'horloge atomique de la radio. On va vraiment beaucoup trop vite. On va encore ralentir le tempo. Edwin Collins, No ID. Edwin Collins sur le supplément week-end Radio Éphémère. No Heidi. Continuer sortie bande dessinée avec Sentai School, qui est une, attention, malgré le nom anglais, anglo-japonais, est une série française, l'école des héros. Et ça n'a rien à voir avec un film où il est question de jeunes adolescents américains qui sont pris en otage par un dangereux terroriste panaméen, etc. Non, non, c'est une série de Philippe Cardona et de Florence Torta, éditée par Camille, qui a d'abord été prépubliée en fanzine, puis dans le magazine Coyote. Sentai School est une BD injustement méconnue de la génération Goldorak. Et pourtant, il y a tout ce qu'il faut pour la combler. Des références au manga, au Japanimation, aux séries live de monstres caoutchouteux avec le héros qui se transforme grâce à sa navette volante, etc. Aux BD, aux comics, aux films, aux soap opéras sentimentaux où Jorg sort avec la charmante bouchère pendant que sa femme fait les honneurs du jardinier. Bref, il y a tout dans cette Macédoine de subculture. Car vous pensez bien qu'avant de lancer un super-héros dans la dure jungle de la contre-culture, il faut le former à la sub de justice, un peu comme la fac de Mertonville, mais avec beaucoup moins de sérieux. Parodie oblige. Et le proviseur a du mal pour transformer ses élèves en super-justiciers, surtout que le mal est à l'œuvre. Et pas loin en plus, l'école des Sentai est sur le trottoir en face de l'école des méchants, dont le professeur est le terrible stratégaire. Or, la classe que nous suivons entre dans une troisième année décisive. Ils vont devoir bachoter comme jamais. Ouais, enfin, je sais pas si pour vous, mais j'ai l'impression qu'on m'a toujours dit ça pendant mes études, chaque année, de la maternelle sup au doctorat. Cette année, c'est du sérieux. Fini de gamberger, maintenant tu es un grand. Maintenant que tu as l'âge de responsabilité, tu vas faire des TP de fusion nucléaire. Voilà des compagnies, oui. N'empêche, il faut quand même réviser très sérieusement ces cours de densification, de redressage de tort, de roulage de pelle à la demoiselle en détresse, et passer par la case de l'horrible, la terrifiante, l'humiliante, l'insoutenable visite médicale. Bien, bon, alors, première remarque, c'est en noir et blanc, mais ce n'est pas une manga par sa structure extrêmement dense, on est plutôt dans une rythmique de bande dessinée franco-belge pure. Et à cause du format de l'album proche du A5, on est parfois quasi obligé de revoir les dessins à la loupe pour être sûr de ne pas avoir manqué un gag graphique. L'autre souci, c'est que l'on est dans la citation convenue, le jeu de mots archi incompréhensible entre Largo Winch, Batman, Blackjack, les Power Rangers, Grey's Anatomy, Crisis on Infinite Earth, Queen, Death Note, The Tick, Ken le Survivant, Picsou, Monsieur Prop, Mr. Bean, Parker Lewis ne perd jamais, Yakita Tel Japan, X-Men Uncanny.
Oh, tu as pas tous ces cités là?
J'explique que justement on ne peut pas tous les citer, ça prendrait trop de temps et...
Primo, et...
Et que je vais en oublier au moins une dizaine.
Ah, ça, t'aurais bien l'air ridicule après.
Ok, j'arrête là.
Oui, un peu, ouais.
Bon, d'accord, ok, je reprends. Les citations, figurations, guests, caméos valent à eux seuls leur pesant de bonbons Haribo. Un peu obligé pour une peuplade d'adolescents qui se délecteront ce soir à partir de 21h devant Heroes, tout en bouffant et en se moquant des doubleurs français. Bref, si vous n'êtes pas à fond dans cette génération Albator, pardon, j'aurais pas dit Goldorak en début de chronique.
Si, hein. Si.
Ouais, pardon, excusez-moi, pardon. Bref, si vous n'êtes pas à fond dans cette génération, vous êtes complètement largué sur le bas-côté, exclu du club, muré dans votre plus totale incompréhension.
Sentai School.
À la spontanéité d'une publication fanzine, le délire d'un groupe de fans qui rient d'eux-mêmes, et surtout le pathos
d'Hélène et les garçons.
À moins que ce soit celui du
pensionnat de Candy contre la maternelle Dragon Ball.
Bref, en soi, je ne sais plus. Philippe Cardona et Florence Torta, Sentai School, l'école des héros. Le quatrième tome vient de sortir chez Camille.
Ce qui est rigolo avec cette BD, c'est que si y a quelqu'un qui lit cette BD et qui appartient à cette génération justement qui est à côté de vous, et c'est tout le silence, à un moment donné vous pouvez entendre « Oh,
mais c'est propre !»
Ou « Oh ouais, cool, il y a le gros sergent de Fullmetal Alchemist. »
Attends.
Ouais, t'as vu, là, ça c'est total.
Enfin, ça fait un peu Beavis and Butthead, là.
Ah, je...
te rappelle que tu fais partie de cette génération, toi aussi.
Oui, à fond. C'est pour ça qu'on fait cette émission, d'ailleurs. Il me semble. Supplément au week-end. Le magazine des cultures geeks. C'était la chronique BD. 12h31. On n'a pas de publicité, donc je nique sauvagement la régie publicitaire qui est encore en vacances. Et... Oh si, on va en passer une fosse, rien que pour le bonheur. Allez, un petit cadeau de la part des Requins Marteaux qui, cette semaine, inaugurent leur exposition au Musée Ferraille. Ils la font, figurez-vous, en ancienne Yougoslavie, en Slovénie. Ils ont été invités là-bas, donc tant mieux pour eux. Surtout que la communauté slovène de bande dessinée est de contre-culture est très 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 active, notamment dans la bande dessinée, notamment avec le magazine Strip Burger.
Je suis vieux et je m'ennuie. Quick, quick, et la vie va plus vite. Quick, quick, ça oui, c'est tonique. Quick, quick, l'aliment pigeon que les seniors préfèrent. Pourquoi pas vous ? Seulement 4,11€ la boîte. Alors vous aussi, soyez quick, quick.
Transition toute trouvée. Et Beastie Boys.
Mr. Spock.
Non mais Thomas, tu peux arrêter de me parler de Hunter x Hunter. Hein. Si je te les ai passés, c'est parce que voilà, quoi, je les ai déjà lus. Hein, ça... On commençait à passer beaucoup de temps dessus.
Bref. Attends, j'ai fini DBZ Budokai Tenkaichi 2 sur PS2, il me faut autre chose. Donc Hunter x Hunter.
Ça tombe bien, tu as du monstre caoutchouc violent.
Voilà. Alors par contre, tu m'as foutu un jingle sur les films chinois. Alors j'espère que c'est film asiatique plutôt, parce que c'est coréen cette fois. Donc il s'agit
ouais,
du...
Ouais, je crois que c'est que du Hong Kong, je me plante.
C'est pas grave. Donc là, c'est le film The Host du réalisateur de Memories of Murder qui s'appelle Bong Joon-ho. Donc c'est un film avec Song Kang-ho, Baedona et Park Hae-il.
Bon, alors je vous rappelle quand même que pour la prochaine saison, on va décider d'être correct pour parler en coréen, en japonais.
Oui, on prend des cours.
En mandarin,
en cantonais.
Cantonais, tout ça, parce que moi j'ai eu beaucoup de mal à préparer l'émission sur ma chronique sur
le
pavillon, parce que en fait je suis tombé sur un excellent site, mais les noms étaient en cantonais.
Ah oui, c'est
assez
clair.
Pénible.
Ah oui.
Donc là encore, t'as du bol, le coréen ça se prononce plutôt bien. Hein.
Voilà. Alors c'est un film qui est déjà sorti au cinéma et qui arrive la semaine prochaine, le 6 septembre, en DVD chez TF1 Vidéo. Et ça raconte, l'action se passe en Corée du Sud. Il y a un monstre géant qui surgit de la rivière Han et qui tue des centaines de passants. L'une des victimes, Yoon Se-ho, c'est une jeune fille et elle est cependant toujours vivante, prisonnière dans la cachette du monstre dans les égouts. Sa famille fait son deuil, la famille pense qu'elle est morte. Sauf qu'un jour, il y a le père qui reçoit un appel sur son portable de la fille qui lui dit « Non, je suis toujours vivante ». Alors sa famille va tout tenter pour la retrouver malgré l'incrédulité générale et les forces de police décidées à isoler des personnes en contact avec le monstre parce qu'ils pensent qu'il y a le monstre qui, s'il est en contact, il peut transmettre un virus à certaines personnes qui meurent. Et donc y avoir une chasse outrancière à toutes les personnes qui ont été en contact et justement le père va se heurter à des chirurgiens, des médecins, des flics qui disent mais non, faut que tu penses à toi maintenant, ta fille elle est morte, faut faire une raison maintenant. Alors c'est voilà, alors le film comme Memories of Murder en fait c'est un mélange de genres qui peut assez surprendre au départ puisqu'en fait c'est un mélange de comédie, de films de monstres, de thriller, de drame, de chronique sociale également et ça se passe c'est pas des gens tout propres et tout riches qui sont les héros, mais c'est juste une petite famille avec un mec, le père c'est à moitié demeuré, il tient une petite boutique à côté de la rivière, et c'est surtout le grand-père qui essaie de faire attention à ce que son fils fasse pas trop de gaffe quand il est à la boutique. Il y a la tante qui participe à un concours olympique, qui a aussi à l'arc et l'oncle en fait a fait beaucoup d'études et bon c'est une petite famille classique voilà. Et alors c'est un film aussi à effets spéciaux dans la veine de Godzilla. Bon les effets spéciaux c'est pas du Godzilla parce que c'est des effets spéciaux numériques. Ils ont travaillé avec le studio Weta Workshop pour la maquette de la créature et ils ont fait appel à un studio monté par des anciens d'ILM, ça s'appelle The Orphanage. Et franchement, pour un film coréen, on se dit bon, allez, le film, le gros atout du film, ça va pas être des effets spéciaux. Et en fait, la créature, elle apparaît tout le temps en plein jour. Donc c'est quand même une gageure.
Oui, mais en même temps, c'est un gros classique justement de ce genre de film de monstres. Hein. À part le tout premier Godzilla où il apparaît surtout de nuit. Même les films les plus pourris, ils font apparaître leurs monstres en plein jour, en train de piétiner une petite maquette.
Oui, sauf que le souci, c'est que dans les Godzilla, c'est que ce sont des personnes qui sont dans un costume, et alors que là, c'est du numérique. Donc le numérique, tu te dis, c'est toujours en pleine nuit pour essayer de masquer l'incrustation, et là, ils l'ont fait en plein jour. Et franchement, la créature, t'y crois parce que elle a un design assez particulier, on dirait un poulpe un peu modifié, et il y a juste une scène scène vers la fin qui dans l'incrustation est vraiment pas top parce que c'est bon, il y a des ajouts de particules, mais je peux pas vous trop vous raconter la fin non plus. Donc la créature, franchement, ça le fait. Et puis tu crois. En plus, c'est traité. Le traitement qu'a choisi le réalisateur pour ce film, c'est vraiment à hauteur d'homme. C'est pas du tout. On monte Godzilla avec un peu de gens.
À hauteur de Godzilla.
Voilà. Là, c'est vraiment. C'est presque du documentaire, du reportage. On pourrait croire que c'est un film d'après une histoire vraie parce que c'est filmé. Voilà, à hauteur des personnages, et puis t'as la créature, des fois tu la vois, des fois tu la vois pas, donc c'est vraiment très bien foutu, très bien réfléchi sur ce côté là et les personnages, justement, au contraire de par exemple La Guerre des Mondes que j'ai vu récemment cette semaine d'ailleurs, c'est tu sens que bon, Tom Cruise, tu sens que le mec au départ c'est un raté, il lève pas bien ses enfants et tout, mais c'est quand même Tom Cruise, donc tu dis bon allez, il va quand même
allez, montre ton charisme héroïque,
voilà, il va quand même péter la gueule aux méchants, alors que là tu la famille, ils trébuchent, ils se plantent à un moment donné, ils sont vraiment des ratés, ils se font avoir par tout le monde, tu te dis ça m'étonnerait que tout le monde survive. Et puis en plus, quand tu connais la propension de cinéma asiatique à faire crever tout et n'importe quoi, tu te dis ouh, t'as peur, t'es franchement sur les nerfs pendant tout le film.
Du coup, tu t'imprègnes beaucoup plus des personnages parce que
voilà,
sont beaucoup
fait.
Plus vivants.
C'est extrêmement nerveux, les personnages, tu t'attaches vachement plus à eux parce que. Et puis
t'as vraiment peur pour lui, du coup.
Exactement. Alors, côté mise en scène, justement, c'est une science du hors-champ et de la créature, tu la vois pas tout le temps. Et il y a une scène qui est vraiment impressionnante. C'est la petite fille au début qui est dans la boutique et qui est en train de regarder la télé, et puis d'un coup elle entend du bruit dehors et est dégoûtée parce que sa tante, elle a pas eu la médaille d'or, et puis elle sort, et là auparavant on avait vu l'apparition du monstre avec le père qui essaie de survivre et tout parce qu'il y a plein de passants qui se font embrocher, et là il y a ce fille qui sort, et là il y a le père qui passe au ralenti en saccadé, qui prend la main, et tu vois que entre temps la créature elle a tout dégommé sur le passage, et puis tu dis ah putain, ça va meuler sa race. Et voilà, et t'es pris à la gorge franchement dans ce spectacle, et c'est vraiment super bien. Voilà, là il y a beaucoup de plans séquences, travelling, tout en saccadé, t'as le mec, c'est jamais sur une dolly ou sur une grue, c'est les mouvements ne sont jamais amples, c'est vraiment comme un reportage, franchement.
C'est ce qui a dû être beaucoup plus difficile du coup pour incruster ces éléments en 3D, je suppose.
Oui, évidemment, pour le tracking, oui, effectivement, c'est beaucoup plus galère.
Tu parles de tracking, donc on rappelle que le tracking, c'est la manière de donner des points de repère sur une prise de vue en point réel, avec une caméra qui bouge tout le temps pour incruster correctement de la 3D.
Voilà. Mais je pense qu'ils sont quand même arrangés pour qu'à chaque fois qu'il y a un plan avec la créature, ce soit quand même plus ample. Mais justement, les plans dont je te parlais, plan à l'épaule et tout, tu vois pas la créature dans le plan, justement, et les plans avec la créature sont beaucoup plus posés. Et alors, ce qui frappe aussi dans ce film, c'est de toute façon la métaphore des films de monstres. Godzilla, ça résultait de la menace l'après Hiroshima, en fait. Et là. C'est surtout
Kim Jong-il.
Une famille qui est dépeinte pour. C'est juste une famille qui fait son deuil au départ et qui s'aperçoit que la fille n'est pas morte. Et donc, c'est la tentative de tous les membres de la famille à leur manière pour essayer de sauver la fille. Ils vont être amenés à se séparer. Le film adopte une consonance beaucoup plus noire ensuite, puisque chacun, à sa manière, va essayer dans son coin de récupérer la petite fille. Et t'as des scènes vraiment super glauques. Le père qui va être emmené par des chirurgiens qui vont essayer de lui faire une lobotomie du cerveau parce qu'ils disent ouais, t'es trop agressif, on va t'enlever une partie du cerveau.
C'est un peu justement la scène du même genre que tu as dans E.T. l'extraterrestre.
Est-ce qu'il y a une séquence de chirurgie dedans?
Non, mais il est menacé par des savants.
Oui, voilà.
Et on parle justement de le disséquer.
Oui, voilà, exactement. Sauf que là, c'est des humains et le mec, tu vois, il y a l'aiguille et tout. Voilà. Et puis, Memories of Murder, c'était un excellent film à la base aussi. Et ça racontait la traque de deux enquêteurs dans la campagne sud-coréenne de 1986, d'après une histoire réelle, où ils essayaient de mettre la main sur un violeur et tueur en série. Et là, c'est pareil, ils essaient, ils sont à la recherche d'une personne, bon là c'est pas pour le buter mais pour la retrouver, mais c'est vraiment c'est à peu près la même chose, c'est un drame humain où une communauté essaie de retrouver quelqu'un, et t'es partagé pendant tout le film entre, t'as des scènes de pure comédie et tu dis voilà, parce que bon, le jeu d'acteur asiatique correspond pas vraiment au canon européen tout en retenue, et là c'est vrai que si t'es allergique à ce genre de jeu d'acteur, c'est vrai que tu sors du film assez facilement. Et alors, t'es partagé totalement entre l'envie de rire parfois et t'es un sentiment de malaise parce que tu sais que quand même ils essaient de, même s'ils sont assez maladroits, de retrouver la petite fille et tu te dis ah merde, ouais, bon, c'est vraiment des personnages très humains et tu sais pas comment du tout ils vont réussir à neutraliser la créature, à remettre la main sur la fille parce que bon, quand j'en reviens à Tom Cruise, s'il est en face d'un martien, tu crois toujours qu'il va dire ouais, l'astuce, ouais, j'ai compris, ton point faible c'est là, là. Et là, tu les sens incapables de trouver un point faible à la créature.
Tu veux dire que Tom Cruise il serait prêt à jouer Ken le survivant ou quoi?
Ken le survivant, ouais, il a pas la morphologie mais ouais. Et donc voilà, ce que je disais, c'est si vous êtes allergique à un système de tout ce qui, si vous êtes allergique déjà en général au décalage, pour il faut pas mélanger les genres, un film de monstre c'est un film de monstre, il faut que ce soit sérieux et tout, bon ben là il faut passer le chemin parce que c'est justement le mélange des genres qui fait le gros atout du film et son intérêt. Et puis ben voilà, si vous aimez le cinéma asiatique, le cinéma coréen pour sa nervosité et pour son énergie, ben franchement il faut se ruer vers ce film qui sort en DVD la semaine prochaine. Après, c'est pas si vous êtes un fan de gros spectacles, c'est pas Godzilla de Roland Emmerich où on voit la créature sous tous les angles, devant, derrière, en numérique, tout ça, avec des bébés. Ouais, regardez, on a fait Alien. Mais en fait, là, c'est pas du tout ça. Et c'est vraiment un film très déstabilisant et qui marque pour quelques jours ensuite. Moi, je l'ai vu hier. Ouais, franchement, c'est un film qui vaut le coup d'œil. Donc, ça s'appelle The Host et ça sort chez TF1 Vidéo en DVD le 6 septembre, réalisé par Bong Joon-ho. Et je vous conseille d'aller revoir son précédent film qui est Memories of Murder et qui est sorti dans plusieurs éditions, collector, etc. et avec beaucoup de bonus. Voilà.
Et pour information, Thomas a réussi à publier sa chronique avant de venir.
Oh, c'est pas la première fois.
C'est pas la première fois. Vous pouvez le retrouver en tapant supplément week-end MP3, supplément week-end podcast, voire même supplément week-end tout court. On est le premier résultat.
Ah ben, heureusement.
Heureusement, voilà.
D'ailleurs, tant que tu parles du site, vous pouvez nous écrire et vous pouvez poser des questions à vos
questions
animateurs
débiles,
préférés.
Allez-y. À la rentrée, on va faire une rubrique, justement, courrier des audilecteurs. Je peux vous dire que déjà, il y en a quelques-unes...
Une question canon. De Madame Belle-Père de Michaud.
Voilà, et en plus, on appellera s'il le faut les spécialistes en direct par téléphone. Je me demande si certains sont réveillés à cette heure-là, mais on verra. On les dérangera rien que pour le plaisir de les avoir en direct, rien voilà. Que parce qu'on est des gros salauds qui ne pensons qu'à nous-mêmes.
Nous vous rappelons que nous avons des spécialistes sous le coude, comme François Penaud, qui se fera un plaisir à 10h du matin de vous répondre en demandant « Ou alors, Alan Moore, il a mangé quoi à son repas de mariage ?» Et bien, il vous répondra dans les détails.
Va chier, connard. C'est ainsi que t'appelles. Je vous rassure, hein, aucun chroniqueur n'a été maltraité pendant cette séquence. Alors, j'ai ressorti ça me rappelait les années lycée et tout, c'était un grand moment ça. Freak Power. C'était le tube de l'été ça, en 93.
Je m'en souviens pas, moi j'écoutais tout Limited.
D'accord, ok, je le retrouve après et puis on remettra ça dans le zoo.
One thing you gotta concede, you gotta know who's in. thousands of people are regularly turning out. And it's easy to find when you mess with your mind that you've gone beyond a reasonable doubt.
Après Phonofunk de Shy Boy, c'était un morceau qui a été conçu sur internet et qui est libre de droit sur net. On a tenu, il est 13h18 secondes.
Ouais.
J'ai oublié de passer le temporaire, voilà.
Bravo.
On a un peu triché quand même.
On a passé plus de musique que d'habitude, mais au contraire, ça fait respirer.
Ah ça, et on peut dire qu'en ce moment, l'athlétisme français, ils ont besoin de respirer.
Ils ont un peu dans le cul.
Ah, profond même, à propos de gens qui l'auront dans le cul. Non, pas. Ok, sur Radio FMR, la suite des programmes, 17h Big Bang, 18h Vidor Dur, 21h39 Love, 20h, 23h Potager. Quoi Thomas? 23h Potager, oui, c'est une émission de... Quoi? Ah oui, je suis pas le planning, pardon, excuse-moi. Thomas, peux-tu s'il te plaît faire le résumé pour ceux qui ont pris l'émission en cours de route?
Eh bien oui, pour commencer, le réalisateur s'est planté dans ses CD, il y a eu de la parlotte pendant 15 minutes pour meubler. On a eu 3 BD, de l'école de super-héros, un sketch écrit à l'avance, un film de monstres coréens et pas du sport.
D'accord, et ben heureusement vous pouvez réécouter l'intégralité de cette émission si vous êtes arrivé en cours de route avec les chroniques écrites mais aussi vos commentaires, n'hésitez pas, il suffit de taper dans Google supplément week-end, FMR ou supplément week-end. MP3, et là, vous tombez direct, et alors c'est du bonheur. Nous, on se retrouve la semaine prochaine pour notre rentrée. L'émission numéro 125 se termine ici. L'émission numéro 126 sera avec le retour du sport.
Ouais.
Avec le retour du cartable, du goûter dans le cartable.
Et des cahiers, et des stylos.
Et des châtiments corporels, si jamais on commet une erreur.
Ouais, il a joué avec son effet aujourd'hui.
Ouais, je suis content. C'est trop cool, ça le fait. J'adore le I020 pour ceux qui le savent. C'est le numéro d'effet dans le Behringer, voilà.
Ah, d'accord.
Ceci dit, ben, ciao, rendez-vous la semaine prochaine. Bye bye. À plus.
Ciao.